Dans quelques jours aura lieu le premier tour des élections législatives. Le point ce matin sur cette situation inédite.
Les dimanches 30 juin et 7 juillet, les électeurs sont appelés à voter pour élire leurs députés. Rassurez-vous, Radio Urbaisance ne donnera pas ce matin de consignes de vote, mais propose quelques points de repère pour comprendre l'enjeu de cette élection. Pour nous accompagner dans cette réflexion, je reçois le directeur des études de la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse, Enguerrand Serrurier. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Faisons un petit retour en arrière et remontons au 9 juin, date de l'annonce par le président de la République de la dissolution de l'Assemblée nationale. En quoi cette dissolution est-elle différente des 5 autres de l'histoire de la Ve République ?
Alors avant toute chose, il faut rappeler que la dissolution est une prérogative purement politique du président. Selon l'article 12 de la Constitution, il n'a pas à s'en justifier. Il y a comme simple contrainte une consultation formelle du Premier ministre et des présidents des assemblées. À partir de là, on peut essayer de dresser un classement des 6 dissolutions de la Ve République, puisque c'est la 6e. Et grosso modo, on peut concevoir 2 catégories. Il y a d'une part la dissolution de crise, et d'autre part la dissolution stratégique ou, disons-le, opportuniste. Alors la dissolution de crise, c'est la dissolution qui correspond à un problème dans le régime institutionnel, soit à la crise parlementaire. L'exemple classique, c'est la motion de censure en 1962 contre le gouvernement Pompidou, cas unique, réaction de l'exécutif qui est normale, on dissout et on retourne devant le peuple pour déterminer qui a raison. L'autre cas, c'est toujours sous le général de Gaulle, la crise politique majeure, mai 68, lorsqu'on se rend compte que les institutions sont déconnectées du pays réel et qu'il faut donc retourner à la source. Alors ce qui est intéressant, c'est que en l'espèce, c'était Pompidou qui avait insisté pour qu'on fasse une dissolution, alors que De Gaulle pensait plutôt faire un référendum.
Ah oui.
Donc voilà les 2 mécanismes pour résoudre des crises, référendum ou dissolution. Et ensuite, donc la dissolution, on va dire stratégique ou opportuniste, même si le terme est peut-être un petit peu péjoratif. La dissolution stratégique, on en a des exemples classiques, c'est lorsque le président, en fait, souhaite renforcer ou faire concorder la majorité parlementaire avec son propre bord. 2 exemples qui n'ont pas suscité de querelles particulières, c'est Mitterrand en 80 et en 88. Une fois que le président de la République est élu, on fait concorder la majorité des députés avec son programme. Ça semble normal.
Logique, à peu près.
Tout à fait. Et puis après, il y a la dissolution du troisième type à l'anglaise, celle de Jacques Chirac en 1997, où le président espère renforcer sa majorité. Bon, on sait ce que ça a donné, ça a été l'effet inverse. Il faut avoir le nez creux pour faire ce genre de dissolution. Alors, où se situe la dissolution de 2024 ? C'est la question.
Crise, opportunisme ?
Bien, quelque part entre les deux, en fonction de l'interprétation qu'on a des résultats du 9 juin, puisque soit on considère qu'effectivement il y a une crise majeure qui est révélée par ces résultats du scrutin européen, soit on considère que c'est une dissolution stratégique après un an et demi de pagaille parlementaire avec cette majorité relative issue des législatives de 2022.
Et donc là, le but de cette dissolution, ce serait justement de renforcer une majorité ?
Ou en tout cas d'en trouver une,
déjà. Oui, ce serait déjà pas mal.
Voilà, puisque effectivement, le but de la dissolution, c'est le retour au peuple pour mettre chacun devant ses responsabilités. L'électeur est devant sa responsabilité de donner une majorité à la France. Donc, c'est un procédé qui est fondamentalement démocratique, en réalité, et qui permet de rétablir un équilibre dans les institutions. Les sondages actuels ne permettent pas, pour l'instant, d'imaginer une majorité absolue pour quelque bord que ce soit. Aussi, quels que soient les résultats et quel que soit le vainqueur relatif, on peut imaginer que le pouvoir qui sortira des urnes après ces élections sera beaucoup plus parlementaire, négocié dans la gestion de l'exécutif que ce qu'on a vu depuis les 7 dernières années.
Oui, ce sera peut-être, il y aura peut-être un consensus qui pourra se trouver sur certains points. L'avenir nous le dira. Alors, c'est vrai que le Rassemblement national a fait un score important. Il y a aussi la montée de l'extrême gauche qui a été notée aux dernières élections européennes. Les observateurs s'interrogent. Ils se demandent si les électeurs vont faire le même choix pour les législatives. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 types de scrutins, Enguerrand Serrurier ?
Alors, c'est essentiellement du côté législatif le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui est un peu la recette secrète de la Ve République pour trouver sa stabilité au-delà de tout le poids des institutions, des prérogatives diverses. C'est ce mode de scrutin qui a permis ce qu'on appelle la bipolarisation de la vie politique autour de deux grands pôles à défaut de deux partis. Il est quand même moins brutal que le scrutin britannique à un tour, dont d'ailleurs il faut rappeler qu'il va y avoir les élections aussi parlementaires britanniques dans quelques jours, et manifestement ça suscite moins d'inquiétude. Effectivement, ce scrutin à deux tours permet un vote, on va dire, peut-être plus pondéré, avec deux phases, une période de latence entre les deux tours, alors que le scrutin de liste à la proportionnelle à un tour des européennes, c'est vraiment un cliché instantané de l'opinion publique, en quelque sorte. C'est tout à fait démocratique. Est-ce que ça permet de bâtir des majorités ? Oui, au niveau européen, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout le même type de scrutin. Donc effectivement, il n'est pas évident qu'on retrouve les mêmes résultats électoraux d'un scrutin à l'autre. Et c'est d'ailleurs, je pense, aussi ce qui a un peu bouleversé une partie de l'électorat. C'est une sorte de dramatisation d'un scrutin européen qui a des conséquences à tel point, selon l'exécutif, que l'on en fait dépendre la représentation nationale.
Et ça, à votre avis, il n'aurait pas fallu prendre les choses de façon aussi sérieuse ?
Alors... Tout doit être pris au sérieux. Seulement, alors qu'on nous dit le plus souvent que le débat des européennes ne doit pas être nationalisé, ne doit pas dépendre d'enjeux nationaux, on en a conclu qu'il fallait avoir une réponse nationale. Pour moi, il y a une sorte de disproportion, en tout cas, de disproportion entre la cause et la solution.
Oui. Qu'est-ce qui pourrait se passer après le 7 juillet ? Quels pourraient être les différents scénarios ?
Alors, tout dépend effectivement de l'enjeu de la majorité relative ou absolue. Si on continue effectivement dans ce qui est conçu par les sondages actuellement, certains font le parallèle avec la 4e République, avec 3 ou 4 forces en présence. La différence tout de même est que sous la 4e République, il fallait l'investiture de l'Assemblée nationale pour faire un gouvernement. Depuis la 5e République, article 8, le pouvoir de nomination du Premier ministre appartient au président de la République. Et on l'a vu avec les derniers gouvernements Borne et Attal, on n'est pas obligé de faire une déclaration de politique générale qui engage tout de suite la responsabilité du gouvernement. Donc on peut imaginer un gouvernement minoritaire. Néanmoins, deux difficultés. D'une part, il faut quand même essayer d'avoir des coalitions pour faire adopter les projets de loi, et c'est déjà ce qu'on a vu avec la majorité relative ces deux dernières années. À ce moment-là, il y a toujours l'article 49 alinéa 3, le fameux
49.3.
Mais qui est devenu un fusil à un coup, on le sait, sauf en matière de loi budgétaire, depuis la révision de 2008. Et l'autre enjeu, c'est de savoir est-ce que ce gouvernement peut survivre à une mise en cause de sa responsabilité. C'est la fameuse motion de censure, c'est le 49 alinéa 2, un peu moins connu, puisqu'il aboutit beaucoup plus rarement. L'unique fois, ça a été en 62. Alors, la motion de censure, oui, mais encore faut-il que les oppositions acceptent de se coaliser sur un même texte pour arriver à la majorité absolue. Et je rappelle aussi qu'on ne peut avoir par député que 3 motions de censure signées par session. Donc il y a quand même une certaine limite à cet usage-là, avec tout de même un risque de pagaille, hein, disons-le, et c'est là où c'est tout de même assez affligeant, c'est que la 5e République a été conçue par le général de Gaulle et par Debré pour remédier à la pagaille et au régime des partis de la 4e. On y revient en quelque sorte, et avec aussi une situation fictive où la dissolution devient impossible pendant un an. Donc on risque d'avoir une sorte de terrain expérimental parlementaire sans autre moyen de blocage présidentiel que le référendum sur des projets de loi qui seraient suffisamment importants pour qu'on demande au peuple de se prononcer.
De se mobiliser. Vous faites des parallèles avec la 4e République. Vous pensez qu'on est vraiment dans ce schéma-là aujourd'hui ? Risque d'y être ?
Les institutions sont solides, donc on peut espérer qu'elles tiennent. Elles ont été conçues pour ce genre de turbulences, et d'ailleurs, à l'origine, le général de Gaulle ne concevait pas que la bipolarisation de la vie politique se ferait aussi rapidement qu'elle l'a été. C'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct qui a tout changé à ce sujet. C'est pour ça qu'on dit souvent que la vraie 5e République commence en 1962 et pas en 1958. Les institutions sont faites pour, il y a tous les les moyens pour le gouvernement de gérer une majorité relative. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a 3 ou 4 forces qui dominent. Aucune ne peut prétendre à elle seule avoir la majorité absolue. Et même au sein de ces forces, il y a des forces qui sont hostiles au régime. Quand vous entendez certaines déclarations, alors du Nouveau Front Populaire, on peut se demander s'ils adhèrent vraiment à la Ve République, puisqu'ils parlent sans cesse de la Sixième. De même, dans d'autres mouvances, on peut se demander s'il y a un véritable attachement à la hiérarchie des normes et au respect du droit international et européen, etc. En fait, chaque mouvance a des difficultés avec l'acquis constitutionnel.
Et si aucune majorité claire ne se détachait, est-ce que l'Assemblée nationale serait quand même gouvernable ?
Oui, il y a... Alors, à condition de pouvoir faire un gouvernement minoritaire, le gouvernement a les moyens tout de même de s'imposer. Certes, il ne peut pas le faire sans arrêt, mais il y a des procédures du type le vote bloqué sur des projets de loi. Il y a aussi la procédure du 49 alinéa 3. Certes, on ne peut pas faire fonctionner cela à tous les coups, mais il y a des moyens de s'imposer sur les textes importants. D'accord. Après, c'est peut-être pour cela qu'on peut parler de stratégie ou d'opportunisme. Il s'agit de montrer effectivement comment cette assemblée, avec un gouvernement minoritaire, va s'autogérer en quelque sorte.
Oui. Autre question, la question du vote catholique. Le 10 juin, l'IFOP a réalisé une étude sur le vote des catholiques publiée par La Croix. Elle indique que 37% des catholiques ont voté pour le Rassemblement national, 14% pour la liste de François-Xavier Bellamy, 10% pour celle de Marion Maréchal et 12% pour le camp présidentiel. Enguerrand Serrurier, pensez-vous qu'on puisse parler d'un vote catholique ?
Les résultats, en tout cas, paraissent très émiettés sur l'ensemble de l'arc politique. On pourrait distinguer entre les catholiques pratiquants et les catholiques culturels,
oui.
En quelque
oui, les
sorte.
Les résultats ne sont pas les mêmes.
Les résultats ne sont pas les mêmes et on estime que du côté des catholiques pratiquants, il y a plus un glissement à droite, en quelque sorte. Néanmoins, ça ne me paraît pas être une donnée sociologique fixée dans le marbre, en quelque sorte. Je pense que cela dépend de l'offre politique qui est proposée et des circonstances. Il est vrai qu'en plus avec cette dissolution, nous sommes face à une élection, une échéance électorale qui est, comme l'a dit l'évêque de Carcassonne, aussi majeure qu'impromptue. Donc on peut avoir de grandes surprises sur la redistribution de cet électorat catholique, qui a d'ailleurs des motivations qui sont propres et spécifiques, et notamment, on peut l'espérer, c'est la recherche du bien commun, c'est l'attention aux plus faibles, l'option préférentielle envers les pauvres, enfin, des choses qui peuvent transcender les partis.
Oui, oui. Et ce sont des éléments qui s'appellent des points non négociables qui avaient été mis en avant par le pape Benoît XVI. Et c'est vrai que l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Bruno Valentin, redonne en tout cas ces éléments et puis il invite à ne pas céder à la peur.
Oui, il ne s'agit pas de donner de consignes électorales en tant que telles, ce n'est pas des consignes de vote. Mais le citoyen catholique, l'électeur catholique a une responsabilité majeure dans ce pays. Si ce pays est historiquement considéré comme la fille aînée de l'Église, même si bien entendu les circonstances ont changé, l'électeur catholique a en soi un poids moral important. Il n'est pas étonnant que l'Église appelle à se mobiliser en tant que citoyen face à cette échéance. La laïcité n'empêche pas effectivement l'Église d'être proche du monde politique, tout simplement pour faire avancer ce qui est son agenda de priorité. Mmh. Et de ce fait, il me semble important que chaque électeur catholique se rappelle qu'il a une responsabilité individuelle dans l'avenir de ce pays. Nous en avions discuté lorsque vous m'aviez invité à ce sujet à propos de la résistance catholique. Cette phrase qui agit comme un mantra, France, prends garde de perdre ton âme. Et ça, je pense que chaque électeur catholique, au moment de déposer son bulletin dans l'urne, doit penser à la conséquence que peut avoir ce choix individuel qui va peser sur le destin de l'ensemble de la nation.
Mmh. Cette phrase est de qui ?
Dans Témoignages chrétiens, c'est les premiers cahiers du Témoignage chrétien paru clandestinement en 1942 du père Chaillet.
du père Chaillet. France, prends garde à ton âme.
Prends garde de perdre
de
ton âme.
De perdre ton âme. Voilà une bonne motivation pour ceux qui ne l'auraient pas encore pour aller voter les dimanche, le 30 juin et le 7 juillet. Merci Enguerrand Serrurier, directeur des études de la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse.
Merci Isabelle.